Chroniques du vivant par Corinne et André.
Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas un mystère, les porteurs de projets agricoles se heurtent à de nombreux obstacles dans leur recherche de terres pour s'installer. Actuellement, les transmissions de fermes sont majoritairement captées pour l'agrandissement d'exploitations agricoles déjà souvent conséquentes. Pourtant, les demandes de terres pour une paysannerie respectueuse de l'environnement et de la biodiversité fleurissent en France et sont en nette augmentation depuis quelques années. C'est à ces porteurs de projets que Terre Vivante consacre son aide, tant pour trouver des terrains que pour les épauler dans leur installation, par la formation, la gestion et dans le partage d'expériences avec d'autres paysans, tout en respectant l'environnement, la personne et ses motivations. Aujourd'hui avec nous, Lucie Aragon, paysanne, artisane et engagée. Bonjour Lucie.
Bonjour. Alors nous allons poser quelques questions sur votre activité. C'est Terre Vivante qui a épaulé votre installation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre activité ?
Bonjour et merci pour cette belle présentation de Terre Vivante. Moi, je me suis installée en 2023 en maraîchage avec atelier de transformation sur un terrain acheté en collectif avec deux amis dans l'Hérault, à Aumelas. Et j'ai été accompagnée dès le début, même avant le début, par Terre Vivante, puisqu'on s'est rapproché de l'association en 2022. Et du coup, on a été épaulés à la fois en tant que collectif et à la fois individuellement sur toute la phase amont et la création d'entreprise. Donc on a pu se former avant et continuer à se former en gestion.
Et vous faites quel type de maraîchage ?
Je m'inspire de techniques maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire que je travaille le moins possible le sol. J'essaie de m'inspirer des dynamiques écologiques naturelles en ne mettant pas d'intrants chimiques, en mettant des intrants type fumier, tourteau de ricin.
Plutôt permaculture donc.
Voilà, je m'inspire de permaculture. Je ne revendiquerai pas forcément tout ça, mais oui.
Oui, c'est une agriculture très, très naturelle, on va dire, très paysanne.
Oui, c'est ça.
Et le fumier vient d'où ?
Le fumier vient d'un centre équestre sur la route pour aller au terrain.
D'accord. Et vous vendez vos productions ?
Oui, je vends depuis cette année. Je vends des petits pots de tartinade et des boissons concentrées, type sirop et autres, sur des marchés pour l'instant. Et je commence à me rapprocher de boutiques et autres réseaux de commercialisation en vente directe.
Oui, j'ai vu que Terre Vivante avait... Enfin, je ne sais pas si c'est Terre Vivante qui a initié cette installation, mais par exemple à Gignac, il y a l'escale locale,
oui.
Où il y a pas mal de petits producteurs comme oui. ça qui vendent leurs produits. C'est dans oui. ce type de boutique que tu voudrais travailler ?
Oui, oui, complètement.
Oui. D'accord.
Et est-ce que tu es en indépendante ou en GAEC ou en groupe ? Vous êtes plusieurs ? Comment ça se passe ?
On a créé une société qui a acheté le terrain et ensuite on a des entreprises séparées qui chacune s'occupe d'elle-même. Donc voilà, on s'entraide, on discute beaucoup, on se file des coups de main, mais sur nos entreprises, on est chacun et chacune.
Et chacun a sa spécificité, alors, je suppose.
Oui, c'est ça.
Oui, il y a quoi, par exemple ?
Donc, il y a Louis qui fait des petits fruits et des fruits pour faire des glaces et des sorbets. Donc, qui cultive sur le terrain et qui transforme ensuite dans son atelier à Agnane.
Oui.
Et le dernier collègue qui fait plutôt de la recherche pour l'instant et en réflexion sur son projet.
D'accord. Et vous avez combien d'espaces chacun à cultiver ?
C'est assez petit. On a le terrain en tout fait 2 hectares, dont 1 hectare de prairie qui est sur 2 parcelles. Donc on a une parcelle chacune de 3000. Donc en cultivé, ça fait à peu près 1000 mètres carrés.
D'accord. Donc il y a des fruitiers.
Oui. Alors on a planté des pistachiers.
Des herbes peut-être aussi.
Oui.
Aromatiques.
Des pistachiers depuis l'an dernier. Oui. Et quelques amandiers, pêchers et cerisiers qu'on a greffés.
D'accord. Oui. Et donc, tu fais les plantes aussi, l'herboristerie
Oui, je fais un peu de plantes sèches que je vends un peu sur des marchés, mais qui est plutôt à destination de professionnels, naturopathes et autres.
D'accord. Et au niveau de l'eau, il n'y a pas de problème sur le terrain ?
Bah, on a dû faire un forage.
Oui.
On est trop loin du canal du Baronne, sur lequel sont reliés pas mal d'agriculteurs qui le peuvent, qui sont assez proches. Mais nous, on est trop loin et donc on a fait faire un forage.
Qui donne de l'eau
Qui donne de l'eau, qui est à 80 mètres, mais qui donne de l'eau, oui. Pour D'accord. les besoins qu'on en a. Après, c'est quelque chose qu'on essaie de réfléchir. Donc, on a mis du goutte à goutte partout sur notre terrain. On n'arrose pas en aspersion. On arrose plutôt le matin et le soir et pas aux fortes chaleurs.
Oui. Voilà.
Et on plante des cultures comme les pistachiers qui sont peu gourmands en eau.
Vous paillez ?
Oui,
je suppose.
Oui, oui, on paille.
Oui. D'accord.
Et sur les pistachiers, c'est un peu long le moment où ils deviendront productifs, non ?
Oh, c'est 5 ans, normalement.
5 ans.
Tout va bien.
D'accord.
Bon, ils s'adaptent bien ?
Oui, bah, c'est une culture qui est en train de pousser sur le pourtour méditerranéen, qui est très adaptée aux conditions d'hiver et d'été qu'on a ici, au type de sol.
C'est très endémique à la région, effectivement. Mm. Et au niveau de ton parcours, tu étais dans l'agriculture, dans la paysannerie au départ ou...
Alors, pas au départ, je ne suis pas issue d'une famille agricole.
Oui.
Mes parents font complètement autre chose. Mon père est artiste plasticien et ma mère est infirmière. Et j'ai fait un lycée agricole, alors je pense que ça n'a pas forcément commencé là, mais ça a déclenché quelque chose en tout cas. C'était pour une option environnement écologique qu'il y avait là-bas. Et j'ai poursuivi ensuite, j'ai fait une licence de biologie, une école d'ingénieur agronome que j'ai terminée à Montpellier. Suite à ça, j'ai fait un service civique dans une ferme associative où j'ai rencontré les deux amis avec qui je me suis installée. Et est venue assez rapidement l'envie de s'installer, pas forcément de façon pressée. J'ai travaillé un peu en tant que salarié avant de m'installer, mais oui, c'est l'idée a mûri petit à petit. Ouais.
D'accord. Et donc, dans cette recherche, tu as reçu le soutien de Terre Vivante ?
Oui. Oui, je me souviens plus comment est-ce qu'on a entendu parler de Terre Vivante, mais assez vite, on s'est rapprochés quand on a commencé à avoir envie de s'installer à l'époque, en 2021 ou 2022. Et on a été très soutenus, ouais, ça a été très important dans nos installations respectives.
Oui, ils sont vraiment connus et réputés pour le suivi et l'accompagnement, oui.
Et alors, tu réfléchis en ce moment à créer un groupe femmes paysannes ?
Alors,
c'est en gestation ?
Oui, c'est même en cours d'accouchement même, presque on pourrait dire. Depuis 2024, avec Terre Vivante, a initié un groupe paysanne plutôt, donc, qui à l'époque prenait pas la forme groupe paysanne, c'était une journée avec la proposition de voir ensuite quelle forme est-ce qu'on avait envie que ça prenne, est-ce que ça s'arrête à cette journée, est-ce que ça continue, est-ce qu'on se revoit. Et donc de façon très libre, on réfléchit depuis à qu'est-ce qu'on a envie de partager au sein de ce groupe, à quelle fréquence on se voit, qu'est-ce qu'on y fait ensemble, de quoi on parle. Là, les réflexions actuelles, c'est de se dire, bon, c'est quand même un espace qui nous fait du bien à toutes, qui est très important pour nous. En même temps, on a toutes des vies très occupées à côté, donc on se voit pas très souvent, mais quand même régulièrement. Et on réfléchit actuellement à un nom et à une charte, donc à officialiser un peu ce groupe.
D'accord, et quelle valeur serait mise en priorité dans ces groupes de femmes paysannes ?
Le premier mot qui me vient, c'est sororité. C'est pas un mot qui est encore très connu, mais c'est vraiment créer un espace dans lequel on se retrouve, on se comprend, on se connaît pas toutes parce que régulièrement il y a des nouvelles, toutes ne viennent pas à chaque fois. Donc, mais c'est quand même un espace dans lequel on se sent très vite en confiance, on se sent comprise parce que même si nos activités agricoles sont différentes, on partage des réalités communes, des difficultés communes, des joies communes aussi. Et c'est très agréable et très fort de pouvoir les partager et de se sentir collègue, sœur, amie, proche en tout cas avec ces femmes. Et puis ensuite, on continue à se connaître. Ça fait depuis 2024, donc on s'est vu une petite dizaine de fois pour certaines moins pour d'autres, mais en tout cas, c'est des moments très forts.
Oui, ça permet de tisser des liens et une espèce de solidarité féminine aussi.
Oui.
Dans le vécu aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des charges qui incombent aux femmes et qui ne sont pas, peut-être pas toujours perçues par la jante masculine dans le monde agricole. Quoi, hein.
Oui, exactement. Ouais. Ni par la jante masculine, ni par le reste de la profession, ni par la société. Et qui sont aussi des charges à la fois en tant que paysanne, qu'agricultrice, qu'en tant que femme, qu'en tant que mère. Et c'est aussi chouette de sentir qu'on avance ensemble, que dans ce groupe, il y a eu des prises de conscience aussi, en discutant, en se rendant compte que ce qu'on vit, en fait, on trouvait ça dur, mais on ne le ressentait pas comme ça. Et...
D'accord. Et, voilà. Et tout ça, c'est soutenu par Terre Vivante ?
Oui. Terre Vivante apporte une animation très précieuse à ce groupe, oui.
Et est-ce que, par exemple, dans le groupe, vous faites de la mécanique ou des choses comme ça pour
c'est
réparer ?
C'est un projet, on n'en fait pas encore, mais c'est une des envies qu'on a pour 2026 de faire des journées... Enfin, je dis non, mais si, on a fait une journée tronçonneuse, une formation tronçonneuse l'an dernier. Donc, on s'est formé entre nous, on a apporté des tronçonneuses, on a démonté, on a regardé comment ça marche, comment on entretient. On avait du bois pour tester. Et donc là, on va faire en 2026 la même chose, mais sur mécanique tracteur et mécanique auto.
D'accord.
Donc voilà, se former à ce qui nous intéresse, à ce qui nous parle.
Gagner en autonomie, c'est sûr. Ça. Et il y a des hommes qui essayent de rentrer ou qui souhaitent rentrer dans le groupe ?
Oui, on a déjà eu les compagnons. Enfin, on se raconte entre nous des fois les compagnons le matin qui disent « Ah, si vous voulez, je peux venir vous former à la tronçonneuse. »
Oui.
Et non, c'est
Et
ça.
Du coup, non, c'est pas l'idée.
Oui, l'idée, c'est vraiment de gagner l'autonomie. Je me souviens d'une BD qui s'appelle « Il est où le patron ?»
Oui.
Où on voit un peu raconter.
Oui, plein de situations qui sont racontées de façon rigolote dans la BD, mais oui, où spontanément l'homme fait et la femme laisse faire. Et en fait, c'est pas forcément que la femme ne sait pas faire, c'est que la femme n'a pas l'occasion d'eux, et donc à la fois n'apprend pas, et plus elle n'apprend pas, moins elle a l'élan de le faire.
Alors qu'en fait, elle est confinée dans un certain rôle, quoi.
C'est ça.
Oui, tout à fait. Mais donc pour en revenir un petit peu la Terre Vivante, justement sur ce type de formation, par contre, est-ce qu'ils interviennent, est-ce qu'il y a des formations, je parle pas des formations qu'on va évoquer tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des formations techniques, haut techniques agricoles ou comme ce que tu disais, de la tronçonneuse ou de se servir de...
Alors, je dirais pas ou pas encore. En tout cas, Terre Vivante fait plutôt des formations sur l'entreprise, sur la gestion, sur le chiffrage, sur l'aspect entreprise de nos vies agricoles. Et par ailleurs, il y a d'autres structures comme les CIVAM qui font des formations plus techniques sur les pratiques agricoles qui peuvent être de la mécanique ou autre.
Oui, parce qu'il y a un gros volet quand même sur la comptabilité, le projet, chiffré.
Oui.
Et là, vous êtes vraiment accompagnée.
Elles proposent des formations chiffrage sur 4 jours. Et après, donc moi, je l'ai fait en 2022. Et ensuite, tous les ans, on a 2 jours d'accompagnement gestion. Donc, c'est... en groupe, donc on rencontre d'autres agriculteurs qui font d'autres activités, c'est ça, donc on se rencontre, on fait du lien, et on regarde nos chiffres, à la fois on compare, mais sans comparer, mais c'est l'occasion déjà pour nous de ressortir nos chiffres, de se préparer à l'année qui vient, se mettre des objectifs pour l'année qui vient, et puis de faire du lien, de connecter avec d'autres agriculteurs qui sont dans le département, donc pas très loin, et...
Alors, j'ai vu que sur votre site, vous avez une nouvelle formation sur une année. Là, c'est formation entreprendre en agriculture paysanne.
Oui.
C'est ça ?
Oui, c'est une formation effectivement toute nouvelle qui est proposée à des porteurs et porteuses de projets. Donc, c'est un accompagnement un peu plus rapproché pendant un an avec 32 semaines de stage sur des fermes, fermes différentes.
C'est énorme.
C'est ça.
Oui. Et le reste se fait après en présentiel
Oui, c'est ça, en accompagnement en présentiel. Enfin, accompagnement et autre formation dans les locaux de l'association à Clermont-Lérault.
Oui, donc vous avez un suivi à long terme quand même.
Oui, c'est ça. C'est
précieux, ça.
C'est très précieux, oui. Terre Vivante accompagne de l'émergence, la création, là, le rythme de croisière de l'entreprise et la transmission. Et ça, c'est des éléments hyper importants. On ne se sent pas lâché dans la nature une fois qu'on est installé.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que vous êtes en relation en permanence avec d'autres savoir-faire, avec tout un réseau, en fait. Mmh. Hein. Et ça, c'est pas chacun dans son coin va faire sa petite formation, son petit truc. Et puis, c'est très intéressant, je trouve, cet esprit de collaboration avec ceux qui savent aussi, quoi, et de partage, quoi. Hein. C'est, ouais. Voilà.
Et sur la transmission, pour revenir à un sujet quand même brûlant en ce moment, comment ça se passe avec Terre Vivante ?
Bah, Terre Vivante accompagne la transmission, c'est par des formations, par des suivis et un accompagnement, de la sensibilisation au fait que c'est très important de préparer la transmission une dizaine d'années avant la retraite, parce qu'en fait, souvent on se rend compte, enfin je m'inclus pas dedans, mais ça arrive très souvent de se rendre compte, bah, le moment où on a envie d'arrêter parce qu'on a envie de faire autre chose, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a fait ça toute sa vie, que ben on a envie de transmettre, mais on veut pas transmettre à n'importe qui, on veut pas transmettre n'importe comment, et en fait des candidats qui nous iraient parfaitement, ben il y en a pas tant non plus, faut les rencontrer, donc voilà, Terre Vivante prépare à sensibilise au fait que transmettre c'est pas anodin, ça demande peut-être de changer certains aspects de l'exploitation pour la rendre transmissible. Peut-être que si on était tout seul, ben, que c'est une grosse ferme, qu'il faudrait plusieurs personnes pour la reprendre. Donc,
Et dans ce cas, vous mettez en relation le vendeur et son successeur, quoi, en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais. Je suppose que humainement, ça doit être difficile aussi pour des paysans de céder une exploitation.
Oui. Bah, ça se passe, ça se passe pas toujours très bien une transmission. En tout cas, c'est long et plus c'est préparé et plus il y a de la discussion et de la médiation et mieux ça se passe. Mais c'est un aspect qui est très important et que Terre Vivante prend beaucoup en compte. Oui.
Et vous êtes en rapport avec Terre de Liens, je suppose.
Oui.
Oui, qui fait un peu le repérage des propositions de terrain.
Oui.
Et des demandes. Porteur de projet.
C'est ça.
Oui.
Oui, vous avez fait une autre émission sur Terre de Liens.
Oui.
Bah, Terre de Liens et Terre Vivante sont toutes les deux dans le réseau Impact, qui est un collectif d'associations et de structures qui œuvrent pour l'agriculture paysanne dans tous les sens du... dans tous les aspects de ce que peut être l'agriculture paysanne, mais que ce soit la solidarité avec Solidarité Paysan, l'accueil, l'accès au foncier avec Terre de Liens, l'accompagnement de l'entreprise, enfin de l'installation à la transmission avec Terre Vivante. Il y a...
Et là, il y a un rôle aussi de la Chambre d'agriculture et peut-être de la SAFER.
Dans l'installation ?
Dans la transmission des terres.
Ah, dans la transmission.
Et dans l'aide à la reprise, quoi, par des jeunes, par exemple, ou des primo-accédants, ou des primo-paysans.
Oui, bah, c'est des acteurs complémentaires, c'est sûr.
Oui.
Donc là, ça fait plutôt sur le côté foncier, qui peut préempter, faire en sorte que les ventes foncières aillent vers des projets. Ils ont une grille de projets ou de porteurs de projets prioritaires, donc faire en sorte que en priorité les terres agricoles qui se vendent aillent à des personnes jeunes qui s'installent pour la première fois, qui n'ont pas déjà du bâti ou du foncier familial.
Oui, qui ne souhaitent pas forcément s'agrandir, contrairement aux voisins qui cherchent les terrains.
Oui, il y a beaucoup de demandes, je pense, en plus.
Oui.
Les porteurs de projets, c'est ça que je disais au début.
Et la Chambre d'agriculture accompagne aussi l'installation comme Terre Vivante. Et c'est un point... C'est une structure service public. Donc c'est un passage obligatoire pour l'installation. On passe au point accueil installation qui nous fournit tous les documents nécessaires à la création d'entreprise pour se déclarer, pour avoir un numéro SIRET...
Oui, donc vous êtes complémentaire en fait.
C'est ça.
C'est bien. Ça rassure.
Oui.
Et est-ce que vous avez des freins dans votre fonctionnement au niveau de Terre Vivante ?
Oui, alors des freins, bah, on en entend pas mal parler en ce moment. Les questions budget public, les incertitudes politiques qui sont amenées à pas mal changer, autant au niveau français qu'au niveau européen. Donc voilà, Terre Vivante navigue un peu là-dedans avec des restrictions budgétaires puisque une bonne partie de ces financements proviennent des formations et de la région, donc des fonds publics et des fonds de formation qui eux aussi sont amenés à varier et à diminuer, enfin plutôt tendance
oui,
à la
diminution. Au niveau des subventions, c'est plutôt à la baisse que donc, ça s'opère malheureusement.
Donc ouais, au niveau des projections, ça bloque un peu.
Oui, mais vous êtes une comment dire, une branche de ADAR ou un nom particulier donné à cette localisation ici dans l'Hérault.
Oui, c'est ça. Disons, Terre Vivante est affiliée au réseau des ADAR. Et il n'y a pas d'autres ADR dans l'Hérault,
oui.
Mais c'est pas, dans les statuts, c'est pas tout à fait une ADR, mais ça s'en rapproche.
Et une question, Terre Vivante, c'est que sur le sol français ?
Oui, c'est sur le sol français, c'est sur le sol héraultais et Pyrénées-Orientales.
D'accord.
Donc quand, par exemple, des fois dans les forums avec Terre de Liens, il y a des personnes d'ailleurs qui cherchent Terre Vivante ailleurs, et il n'y a pas Terre Vivante, mais il y a ADR.
Et alors, je vais peut-être un peu être limitée pour répondre là-dessus. Non, je pense que ADR,
c'est national.
C'est national, oui.
C'est ça.
Mais il y a peut-être des équivalents.
Avec autres, d'autres noms.
C'est
oui.
Ça.
Oui, ça fait un peu compliqué pour les gens qui cherchent.
Oui, mais en tout cas, oui, ADR, c'est France.
Oui. Et dans votre groupe femmes, est-ce qu'il y a des personnes qui sont non issues du milieu agricole?
Oui, beaucoup.
Beaucoup. Qui ont quelle moyenne d'âge, si c'est possible à savoir comme ça? Des reconversions professionnelles
40.
Ah oui.
Oui, bah, y a première installation, reconversion. C'est un groupe assez diversifié, oui.
Donc des personnes hyper motivées, je suppose.
Oui.
Et qui souhaitent se former, qui ont le bagage pour se former rapidement.
Oui, oui, bah, qui sont déjà installés pour le coup, donc qui ont rejoint leur conjoint, qui se sont installés avec leur conjoint, qui se sont installés seuls aussi. Oui, on a vraiment tous les profils.
D'accord.
En tout cas, si on peut résumer un petit peu Terre Vivante, c'est le fil conducteur, c'est quand même un gros respect de l'environnement dans toutes les installations, et puis la mise en réseau aussi.
Oui, la mise en réseau et puis vraiment une posture d'accompagnement aussi qui va être, me touche beaucoup, enfin m'a fait beaucoup de bien dans mon installation de sentir qu'on arrive avec un projet qui au début n'est pas forcément très mature et que pour autant on n'a jamais eu la sensation d'être jugé, de se sentir trop petit, pas assez conventionnel. Elles nous prennent vraiment telles qu'on arrive et elles nous invitent à, avec leur expertise, à mettre le doigt sur les points de faiblesse, les points à retravailler, à éclaircir, sur qu'est-ce qui nous motive au fond dans ce projet et à aller vers la concrétisation de ce projet.
Il y a un grand respect en fait de la personne dans ce qu'elle veut faire et la guider au mieux. Donc c'est vraiment un soutien quand même très très encadrant, quoi, en fait, ça doit
être très concret, oui.
Quand on arrive et qu'on n'est pas sûr de soi, je suppose que ça doit être quelque chose de précieux, quoi.
Oui, bah, on se sent vraiment considéré et accompagné avec ceux avec quoi on vient. Et oui, ça, c'est sûr que c'est précieux.
Et au niveau des... Alors, on va venir sur des choses beaucoup plus concrètes et matérielles. Sur la commercialisation des produits, comment ça se passe pour toi? Où est-ce qu'on peut trouver tes produits ou ceux de tes collègues?
Déjà, dis-nous le nom de ton exploitation, parce que j'ai trouvé que c'était très joli. Et tu nous expliques un petit peu.
Alors, mon entreprise s'appelle Amarelle. C'est le nom d'un arbre arbuste qui pousse dans la garrigue, qui est autrement appelé en... Donc, Amarelle, c'est le nom occitan, et le nom français, c'est cerisier de Sainte-Lucie. Et en occitan, ça veut aussi dire une petite quantité de grains qui reste au fond d'un sac. Donc, j'ai trouvé ça très mignon et je me suis rendu compte après que c'était aussi le nom du cerisier de Sainte-Lucie et qu'on en a partout sur le terrain. Voilà.
Alors comment tu fais, comme dit André, comment tu fais pour commercialiser tes produits? Et où c'est qu'on peut te trouver? On te fait un petit peu de publicité au passage.
Alors, je commercialise pour l'instant, en fait, comme je fais des produits transformés, c'est en train d'arriver sur le marché, mais c'est bien que ça fasse 3 ans que je suis installée, c'est en train d'arriver tout juste. Donc, je vends sur des marchés d'été, marchés d'hiver, j'ai fait des marchés de Noël. Je vends en boutique à 7 à la COP singulière. Oui. Et ensuite, pour l'instant, en ligne. Mais j'ai pas de point régulier encore dans l'Hérault et je m'apprête à déménager dans le Lot. Donc, j'ai envie de pouvoir revenir régulièrement dans l'Hérault et d'avoir des points de vente par ici. Pourquoi pas sur Montpellier, autour de Gignac, Agnan, où je vis.
Et sur quel marché tu interviens ?
J'ai fait des marchés de Noël à Montpellier et à Villeneuvette. Et marché d'été, j'ai fait le marché bio du Sivam Bio qui est à l'automne. Marché de Plessan, marché de la Vacquerie cet été.
Très bien.
D'accord. Et on trouve quoi alors sur le marché ? tu as un nom, je suppose. Comment les étiquettes mentionnent quoi ? Quel
produit ?
Et surtout l'origine, enfin, c'est les produits de la Marelle, c'est...
Oui, c'est ça. Alors, c'est Amarelle, la marque.
Oui.
Et donc, on trouve des tartinades de poivron, d'aubergine, un chutney de courgette oignon, des petites, voilà, d'autres recettes de tartinades à emmener en pique-nique ou à
Noël.
Manger à Noël.
Pour les buffets, absolument.
Un concentré de gingembre curcuma, un sirop romarin thym, un sirop citron basilic. Donc voilà, avec que des plantes, à part le gingembre et le curcuma que je vais produire à partir de cette année, mais que pour l'instant j'achète. Tout le reste vient du terrain, donc les légumes, les aromates. Et bientôt les pistaches, on attend le pesto de pistache.
Ça met l'eau à la bouche tout ça. Bien, ben Lucie, on va te remercier.
Merci à
vous pour cette présentation. Oui. Et puis en souhaitant longue vie à Terre Vivante et à ton exploitation. Et bon vent aussi pour ta future installation. Hein. C'est des jolis projets.
Merci ouais. beaucoup. Ouais.
Hein. Donc nous te remercions pour tout ça. Et nous mettrons donc tes coordonnées sur la page de présentation RPH.
Merci. Oui, il n'y a pas de vente par Internet.
Si, c'est possible.
Ah, donc voilà.
On met ton adresse mail, donc.
Oui.
Très bien.
Ça marche.
Merci beaucoup.
Celle de Terre Vivante aussi.
Oui. Bien entendu. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Pour notre première virgule, André va nous parler des vers de terre. À toi, André.
Oui, bonjour. Donc, les vers de terre, ces petites bêtes qu'on ne voit pas. Il y a des milliers d'espèces. Toutes ne sont pas encore recensées. Entre 6 000 et 10 000, à peu près dans le monde, mais il y en a beaucoup plus en réalité. Et 140 en France, pareil, pas toutes recensées. Cette virgule s'appuie beaucoup sur les travaux de Marcel Boucher, qui est un grand spécialiste international sur les vers de terre et qui a passé énormément de temps à travailler là-dessus. Et donc, l'idée, c'est que quand même, les vers de terre, c'est la première biomasse terrestre, c'est-à-dire à peu près une tonne par hectare en moyenne, soit 100 à 400 vers de terre au mètre carré. Mais bien sûr, quand le sol est compacté, il y en a moins, voire presque pas, voire pas du tout. La masse des vers de terre correspond à 70% de tous les animaux terrestres, hommes compris. Alors, ils ont un rôle fondamental dans la formation du sol, dans le cycle des nutriments. Ils structurent le sol, ils régulent la circulation de l'eau. On ne se rend pas compte, mais quand il y a beaucoup de galeries de vers de terre, l'eau s'infiltre librement et ils peuvent même remédier à certaines pollutions. En 50 ans, les vers de terre sur un sol naturel, non compacté, peuvent brasser la totalité d'un hectare. Et ils rejettent entre 40 et 120 tonnes de turicules, de petits déchets, par hectare et par an. Ils peuvent même remanger leurs crottes, les turicules bien connues. Il y a 3 catégories de vers de terre. Il y a les vers du fumier, qui sont petits, un peu rouges, d'autres sont gris ou jaunes. On les appelle épigées. Marcel Boucher les a nommés ainsi en référence au mot grec « épi dessus », donc les vers épigées qui ont des galeries en surface. Il y a les vers anéciques qui montent, comme les lombriques, et qui ont des galeries verticales qui peuvent plonger jusqu'à 2 mètres de profondeur. Il y a les vers endogés qui ont des galeries horizontales profondes et qui sont aussi des vers qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'ils sont très profonds. Et les galeries des vers de terre sont tapissées des racines des plantes. Le mucus des vers de terre est très chargé en protéines et les plantes les utilisent par leurs racines. C'est une grande production d'azote, ce côté vers de terre, qui est directement assimilé par les plantes. Il n'y a pas de déperdition. On pourrait dire du producteur au consommateur. Si on compare avec les apports d'azote industrialisés, il n'y a pas photo quelque part. C'est-à-dire que l'azote industrialisé risque de brûler les racines, alors que l'azote des vers de terre est directement assimilable et directement assimilé. Côté reproduction des vers de terre. Alors, les vers de terre sont hermaphrodites, qui vient du grec Hermès, messager des dieux, et du grec Aphrodite, déesse de l'amour. Alors, il y a d'abord un échange de sperme de queue à queue, et comme ils sont hermaphrodites, ils deviennent femelles, et ils éjectent des cocons préalablement fécondés par le sperme qui a été laissé par leur partenaire à l'époque où il était mâle. Certains supposaient dans l'Antiquité que les vers de terre naissaient par génération spontanée. Et non, on s'est rendu compte qu'il y avait éjection de cocons par la tête, dans une poche spéciale. Et les cocons, c'est les petites choses blanches qu'on peut trouver sur le sol et qui sont générateurs de vers.
Oui. André, les vers, comment respirent-ils ?
Ils respirent par la peau et ils ont plusieurs cœurs qui sont dans la partie antérieure. Si on coupe un vers de terre en deux, la partie finale, avec la queue, la partie postérieure peut mourir parce qu'elle n'a rien pour vivre, pour se régénérer. Alors que si c'est la partie antérieure qui reste, on a une chance que le vers de terre se régénère.
Oui, généralement, un vers de terre coupé en deux meurt, contrairement aux idées reçues.
Et oui, et ça ne fait pas des tas de petits vers de terre.
Je reviens sur les cœurs du vers de terre.
Oui.
Je trouve ça assez exceptionnel. Il y a 2 à 5 paires de cœurs chez un vers de terre.
Et oui, ce sont des animaux très complexes, en fait, qu'on sous-estime complètement.
Et un vers de terre a également un cerveau. Un cerveau, une bouche, c'est extraordinaire.
Hein, une bouche qui avale la terre, qu'on pourrait dire, c'est pas qu'il la décompose, mais il trie les choses utiles pour lui et il rejette les crottes sous forme de turicules, qui sont quand même très riches parce qu'ils ne peuvent pas tout consommer. Et les vers de terre ont des ennemis, pas très nombreux mais efficaces. Les taupes, par exemple, qui sont capables de stocker les vers de terre dans leurs galeries. Les oiseaux aussi, les hérissons et les petits mammifères. Et bien sûr, le labour, le motoculteur, le tassement du sol et les pesticides et la chimie. Et les oiseaux, certains sont assez marrants et guettent la sortie de la queue du vers de terre pour faire leur crotte et attrapent les vers de terre à ce moment-là. Alors, comment protéger les vers de terre ? D'abord, il ne faudrait pas retourner les sols. C'est comme si on bouscule les étages d'une maison, en fait. Il faudrait aussi laisser des débris végétaux sur le sol pour que les vers de terre puissent prendre des parties de ces végétaux, les entraîner avec eux au fond, les digérer et les ressortir sous forme de turicules. Et il faut bien sûr une agriculture sans produits destructeurs. Donc il y a de l'avenir pour les vers de terre si on respecte le sol et qu'on garde un sol vivant.
En résumé, il nous faut revenir à des méthodes de culture plus saines et biologiques autant que faire se peut. Les méthodes ne manquent pas, mais c'est peut-être un autre sujet. Merci beaucoup, André.
Merci, au revoir.
Chroniques du vivant par Corinne et André.